Ce shiur, il est dédié, les Revoi Shlema, Noah bat, Nama bat Merav. Ok, si on peut prier pour elle, Amash, Revoi Shlema. Revoi Shlema à tout le monde et tous ceux qui veulent des Shidduchim, Bezat Hashem, qui veulent se marier, qui veut avoir de l'argent, ce qu'il veut, ouais. Alors, on se trouve sur. On se situe au niveau de Shlomo Ameler, du roi Shlomo, donc c'est le fils de David Ameler. David Ameler, comme on rappelle, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Bathsheba. On a expliqué l'histoire l'autre fois. Il a eu un enfant qui est décédé. Et le deuxième, il s'appelle Shlomo. Hachem l'appelait Yedid Hachem. Le roi Salomon, le roi Shlomo, c'était un roi qui était tzadik depuis qu'il était petit. Il y en a qui disent qu'il a commencé à régner à 12 ans. À 12 ans, il a commencé à avoir... Et voilà comme on a dit qu'un jour, Shlomo Ameler... Il fait un rêve et Hachem lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme cadeau ?» Imagine, Dieu il se dévoile à toi et te dit « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau ?» C'est pas par quoi commencer. Shlomo Ameler, il a dit « Si je veux demander la royauté, je veux l'avoir, mais ça va être que la royauté. Si je veux demander de gagner mes ennemis, ça va être que mes ennemis. Si je veux avoir l'argent, bon, alors c'est l'argent. » Il a dit « Je veux demander quelque chose. » Le plus important pour juger le peuple juif, c'est quoi ? C'est la chorma, c'est la sagesse. Et il a demandé « Je veux la sagesse. » Hachem lui dit « Tu veux la sagesse ?» Ben, tu auras tout. Non seulement tu auras la sagesse, tu auras la richesse et tu auras tout ce que tu veux. Donc Shlomo Ameler, c'était quelqu'un qui était venu dans ce monde. Hachem lui a donné une sagesse presque... On sait qu'il y a 50 degrés degrés dans la sagesse. Moshe Rabbeinu, presque il est arrivé à ce 50. Ok ? Presque Ar-Nevo. Ouais, Ar-Nevo. C'est quoi ? Allez, les Ar-Nevo, monte à la montagne de Nevo. C'est Nounbo. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à ce degré de 50. Et Shlomo Ameler, il est presque arrivé. Shlomo Ameler, c'est les lettres de Shlomo, comme on l'a dit. Shlomo, c'est... Si tu inverses les mots, ça fait les Moshe. C'est-à-dire que Shlomo, son maître, c'était Moshe Rabbeinu. Il voulait atteindre Moshe Rabbeinu. Donc Shlomo Ameler, il est arrivé une sagesse qu'il a régné sur les animaux, sur les hommes, même sur les animaux et même sur les démons. C'était le patron. Shlomo Ameler, c'était le patron. Et Shlomo Ameler, il était toujours... Il voulait apprendre toujours. Il voulait apprendre encore et encore. Comme j'ai raconté au début, que Shlomo Ameler, il avait... Des fois, il avait un aigle, le plus gros aigle du monde. Il venait le chercher. Et il l'amenait dans des endroits... On ne sait pas où c'est. Ça s'appelle Aria Rocher. Des montagnes d'obscurité. Je ne sais pas où c'est. Ouais, et là-bas, il découvrait, il apprenait plein de choses. Il y avait des anges là-bas, il apprenait des anges. Tout ce qu'il pouvait découvrir, chaque fois qu'il y avait une intelligence à prendre, il prenait. Shlomo Ameler, il voulait tout apprendre. Il arrivait à parler aux animaux, les animaux, ils lui parlaient, ils le respectaient, etc., etc. Et voilà que Shlomo Ameler, après 4 ans qu'il a régné, il a décidé, ça y est, il faut continuer le travail de mon père. Mon père, David Ameler, il avait fait fondation du Beth Amikdash. Mais il ne pouvait pas construire parce que ses mains étaient remplies de sang. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? David Ameler, il a préparé, il n'en pouvait plus, il a fait les fondations, comme on a raconté l'autre fois. Après les fondations, il a ramassé une tonne d'argent, plein d'argent, et il les a mis, il a fait un compte en Suisse. Et Shlomo Ameler, quand il arrive maintenant, il va construire le Beth Amikdash, il ne touche pas un sou de ce compte en Suisse. Il ne veut pas. Pourquoi ? Parce que comme David Ameler, il a fait des guerres, et donc cet argent, forcément, il a reçu aussi des guerres, donc Shlomo Ameler, il ne veut pas toucher à l'argent. Pour le Beth Amikdash, il veut que ce soit clean de clean. Donc il n'a pas touché cet argent-là. Il a mis des impôts un peu durs, il a mis des gros impôts depuis qu'il est devenu roi. D'ailleurs, ils n'ont pas tellement kiffé cette histoire-là. Et donc il a mis des impôts terribles, Ruzi. Une tonne d'argent, il a ramassé. Shlomo Ameler, à part ça, il recevait des cadeaux de tout le monde. Chaque roi qui venait, il lui amenait des cadeaux de son pays. Et à part ça, il lui amenait de l'argent et de l'argent et de l'argent. Donc, il est devenu immensément riche, Shlomo. Et il a décidé de construire le Beth Amikdash. Vous savez que le Beth Amikdash, il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des objets en fer, en métal. Et Maasé, celui qui a fait un peu Svachim Narot, c'est que le Mizbeach. C'est que le Mizbeach, quand on voit dans la Torah, c'est que le Mizbeach, l'autel qu'on va sacrifier les korbanot, qu'on n'a pas le droit d'utiliser des trucs en métal. Mais le reste, le Beth Amikdash, bien sûr qu'on peut le construire avec du fer. Il n'y a pas de problème de le couper avec du fer. Mais Shlomo HaMelech, encore une fois, il voulait le top. Il voulait pas qu'il y ait du bruit. Que la construction du Beth Amigdash se fait sans bruit. Alors, comment on fait pour couper des grosses pierres, pour tailler des pierres énormes comme ça, pour les tailler? Comment on fait? Alors Shlomo HaMelech, il demande à tous les sages, comment on va faire pour couper? Vous avez un plan? Je ne sais pas pourquoi Shlomo HaMelech, il a besoin de demander, ça c'est une question. Mais en tout cas, Shlomo HaMelech, les sages, ils lui disent, regardez, nous, ce qu'on se rappelle, c'est que Moshe Rabbeinu, dans son pectoral, il y avait des pierres précieuses. Il fallait les découper. Il ne les a pas découpées avec du fer. Il a amené ce qu'on appelle le chamir. Ouais, le chamir, c'est une sorte de reptile comme ça, un ver de terre, qu'il arrive à couper des pierres. Vous imaginez ou pas? Comme toi, tu t'étonnes. Mais regarde, comment on coupe le ver? Vous savez comment on coupe le ver? Hein?
Laser.
Non, pas besoin du laser. Il y a une sorte de truc en métal comme ça qu'on passe sur le fer et ça coupe et ça casse pas. Quand vous allez ils ont des trucs comme ça. Mais en tous les cas, pour couper, comme tu comprends qu'on peut couper avec du fer et ça se casse pas, on peut couper. Là, il y avait un ver de terre. Il s'appelle le chamir. Ce ver de terre là, maintenant, Shlomo HaMelech, il dit, ok, je comprends. Comment on le trouve, ce chamir? Combien ça coûte? Combien le chamir? Maintenant, va trouver le chamir. Shlomo HaMelech, les sages, ils disent, il y a des démons. Toi, tu règnes sur les démons. Attrape un mâle et une femelle, attrape-les. Et on va voir que les démons, ils sont à peu près comme les hommes. Ils ont des choses un peu plus élevées que... Pas comme les hommes, la Gemara dans Brachot a dit les différences. Okay, mais ils ont des choses, ils peuvent ressembler à des hommes, sauf leurs pieds qui ressemblent à des canards. Les chédim, les démons... On sait qu'il y a des démons. On sait que Rachid, en France, il a fait une bénédiction pour enlever les démons. Mais on voit souvent dans le chasse que, genre, la nuit, par exemple, dans Megillah, dans plusieurs endroits dans le chasse, on voit que, par exemple, dire bonjour la nuit, c'est un problème. Ouais. Quand tu dis bonjour à quelqu'un qui s'approche vers toi, ouais. Rudy se met dessus en défense. Mais même pas en défense. Ouais, un type qui a l'air. qui veut pas se bastonner. Un type qui vient te parler. Il vient te parler maintenant, il vient te dire, écoute, il veut te dire bonjour. Mais avant, bonjour la nuit, c'est un shed. On ne dit bonjour à personne, trace, ok. Il y a écrit que Tamid Khamim, ils ont besoin de... celui qui est Tamid Kham, la nuit, il a besoin de protection, de garde-corps. Parce que c'est comme un khatan. Un khatan, une kala. Chaque fois que les démons, en fait, dès qu'ils voient qu'il y a la simcha, qu'il y a la joie et tout ça, ils sont jaloux un peu, ils veulent se mêler. Et c'est des choses aussi. Ils adorent les chédims, ils adorent les femmes, ils adorent manger aussi. Ok? Donc qu'est-ce qu'ils font? Viens écouter. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qu'ils font maintenant les... Donc Shlomo HaMelech, il attrape un shed et une sheda. Ok? Un démon et une démone. Ok? Et une shed et une sheda, mâle et femelle. Et il leur dit, écoute, tu bouges. Si vous ne me dites pas la vérité, je vous détruis. Je veux savoir où il est le chamir. Eux, ils disent, où il est le chamir? C'est le ver de terre qui coupe les pierres sans besoin de marteau piqueur, etc., sans bruit. C'est un ver de terre. À peine il passe, il a une force, il fait un trou sur la roche. Ils disent, écoute, nous on ne sait pas, mais peut-être que le roi des démons, qui s'appelle Hashmedai, lui il sait. Donc ils vont chez... Mais comment on le chope, ça, Hashmedai? Alors ça, c'est... Regardez, ça, il faut... Il y a plein de gens qui vont te parler de ça, mais l'endroit dans le chasse, si tu regardes, ça se trouve dans Gittin, la Gemara Gittin Daf Samechet. Ok, en bas, ça commence l'histoire de Hashmedai. Rappelle-toi, Toedano. Gittin Samechet. La Gemara dans Gittin, elle raconte toute l'histoire. C'est quoi l'histoire? Donc, Hashmedai. Comment on va le trouver, ce Hashmedai, ce démon? Alors, il dit, regarde, ce démon-là, moi, je sais où. Il se trouve dans une montagne très loin. Et si tu vas dans la montagne là-bas, il y a un puits, et ce démon-là, il boit que de ce puits-là. Et quand il va boire dans ce puits-là, après d'avoir bu, il met un gros rocher dessus, et il met son tampon. Comme ça, pour être sûr que personne n'a touché à son eau. Et après, il monte en haut, il étudie la Torah, après il descend en bas, il étudie. Il ne savait pas l'étudier, quoi. En haut, en bas, mais qu'est-ce qu'il s'éclate. Va là-bas, et tu essayes de l'attraper. Si tu arrives à l'attraper, il va te dire où il est le chamir. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Comment tu vas attraper un chêne? Il a une force monumentale, ouais, très très fort. Comment tu vas attraper ce démon-là? Il dit, regarde, c'est facile. David Shlomo HaMelech, avec son intelligence, il appelle son coéquipier qui s'appelle Benyahu Ben Yoyada. C'était un super, super... il avait une intelligence, il n'était pas comme Shlomo, un Tamid Chacham, il connaissait toute la Torah par cœur. Il cassait la glace pour se tremper en hiver, pour se tremper au Mikvé, etc., etc. Donc il lui dit à Benyahu Ben Yoyada, il lui donne des menottes en fer, okay, avec le nom de Dieu écrit. Il lui donne sa bague. Shlomo HaMelech, il avait une bague avec le nom de Dieu gravé. Il lui dit, voilà, il lui donne des fûts de vin et il lui donne aussi du coton. Et il lui dit, voilà, tu vas. Donc il va chez maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ce Ben Yoyada? Il était super intelligent. Il creuse en dessous le puits de... Quand il voit que le Shad, il n'est pas là. Quand il voit que le Shad, il n'est pas là. Il creuse, il perce le trou d'eau. Donc il va en dessous le trou de où il y a le puits là. Il perce le trou du puits. Donc il évacue tout l'eau. Ok. Après il rebouche le trou. Donc maintenant il y a plus d'eau dans, il y a plus rien dans le puits de Hashmedai. Ok. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il remonte un peu plus haut et il perce un autre trou. Ouais. Et là-bas, donc le trou il va arriver dans le. Maintenant grâce à ça, il pourra rentrer des choses dans le puits. Au lieu de rentrer de l'eau, il met du vin. Voilà, maintenant, Hashmedai. Et après, il recouvre tout, sous-marin, ni vu, ni connu. Et il se caché derrière un arbre. Hashmedai, il arrive. Et voilà que il voit que le tampon est là, le rocher est là, tout est là. Il ouvre, et de suite, il se rend compte que ce n'est pas de l'eau, c'est du vin. Maintenant, il a pas compris qu'il y a eu une embrouille comme ça. Lui, il a dit qu'Hashem, il m'a inversé le vin. De l'eau, au lieu de l'eau, il m'a mis du vin. Il a pas capté qu'avec quelqu'un à côté. Ok, ce chêne. Donc il dit, mais il écrit que c'est pas bien de boire du vin. C'est pas bien, on boit pas du vin. Celui qui va boire du vin, il va devenir saoul, et après, etc., il va faire des bêtises. C'est pas bien. Donc il a dit, je bois pas. T'es embêté, l'autre. Si je bois pas... Mais après, il avait tellement soif, il a dit, écoute, j'ai tellement soif que je vais boire. Il a commencé à boire, il s'est saoulé, et il s'est endormi. Maintenant, Ben Yoyada, il saute de son arme. Imaginez-vous la peur. Je t'approche d'un chêne, même s'il s'endort, le type, tu t'approches pas, quoi. Ok, tu as peur. Il s'approche de lui, il lui met des menottes au cou et aux mains, et il attache. Et dès qu'il se réveille à Hashmedai, il voit qu'il est attaché. Maintenant, lui, il a une force terrible. En deux secondes, il peut faire tout craquer. Ok, il a une force en. C'est un chêne, c'est un démon. Et il commence à bouger pour faire exploser tous les chênes. Et Ben Yoyada, il lui crie, il dit « Attention, il y a le nom d'Hachem. Si tu fais sauter la corde, tu effaces le nom d'Hachem. T'as mis pas à ça. » Donc il était coincé, Hashmedai, il ne peut plus bouger. S'il casse la chaîne, il efface le nom d'Hachem. Donc il ne bouge pas, il dit « Qu'est-ce que tu me veux maintenant ?» Ben le roi Salomon, il te veut. Top, il commence à marcher. Et l'Agma, entre-temps, elle raconte plein d'histoires. Il a frotté à peine un palmier, le palmier l'a fait tomber. Il a frotté une maison, il a fait tomber la maison. Il passe devant une petite cabane d'une veuve. Et la veuve, elle sort, elle dit « Attention, ne frotte pas ma cabane, sinon j'ai pas d'argent et tout ça, ne fais pas ça. » Il a eu pitié, il a dit « Ok, il a pas fait. » Après, il passe à côté de... Bon, il écrit qu'il s'est cassé un os à cause de ça, bon. Après, il continue. Il voit un khatan, une kala, avec la belle voiture, le khatan, la kala, ils sont tous heureux, qu'ils vont se marier, ouais. Et il commence à pleurer. Bah, il ne comprend pas. Il comprend rien. Après, il voit un aveugle qui s'est perdu. Il le remet dans la route. Après, il voit un sou qui s'est perdu de chemin. Il le remet sur la route. Et après, dernière histoire, il voit un type qui est chez le cordonnier. Il dit, je veux que tu me fasses des Weston qui durent 7 ans. Et il a rigolé. À la fin, quand ils arrivent à Jérusalem, avant de rentrer, Benyahu Ben Yoyada, il dit, explique-moi toutes ces histoires-là. Pourquoi tu as rigolé, pourquoi tu as pleuré, pourquoi tu as ci, pourquoi tu as ça? Il dit, l'aveugle, j'ai vu en haut que c'était un gros tzadik. Donc je l'ai remis dans le chemin, comme ça je vais avoir un mérite d'avoir aidé un tzadik. Le sou, c'est un gros rachat. Donc je l'ai mis dans le bon chemin. Comme ça, ici il paye, on lui donne tous ses mérites, comme ça en haut il va payer. Après, le khatan et la kala, j'ai vu qu'ils sont heureux. Mais moi je sais que le khatan, dans un mois il va mourir. Et elle... Pour se remarier, elle va attendre 13 ans, le temps que son frère petit, du Khatan qui est mort, Iboum, il va grandir. Parce qu'on ne peut pas faire Iboum avant 13 ans. Donc tant on khalissa, tant qu'il n'a pas grandi, il ne peut pas faire yiboum. Donc j'ai rigolé parce que le type, ils sont heureux, mais dans, j'ai pleuré parce que la pauvre va attendre pendant 13 ans. Après, quand j'ai vu le type qui... Quand j'ai vu le cordonnier, là, le type qui demande au cordonnier une chaussure pour 7 ans, je sais qu'il ne va pas tenir le pauvre 7 jours. Dans 7 jours, il part et il veut pour 7 ans. À quoi il joue ? Donc, Bekissour, il arrive devant le palais. Le roi de Salomon, avec son intelligence, il dit « Ne le faites pas rentrer avant 3 jours. Faites-le attendre. » Le premier jour, il demande pourquoi le démon Ashmeda, il dit « Pourquoi il ne m'appelle pas, Shlomo ? » Il m'a appelé, donc pourquoi il ne me fait pas venir ? Il dit « Non, parce que le roi Salomon, il a bu hier soir, il est complètement... Il est éclaté. » Il prend une brique, il met une brique sur une autre brique. Ils vont raconter à Shlomo, Shlomo leur dit, vous savez que pourquoi il a mis une brique sur une autre, c'est un remès, c'est un parabole, il veut nous expliquer que la solution pour guérir un type qui a bu beaucoup de vin, c'est de lui donner un peu de vin, encore du vin. Donc ça guérit. Après, le deuxième jour, il dit, pourquoi il ne m'appelle pas ? Ah, parce que là, il a mangé, il a très mal au ventre. Il a pris la pierre, il a descendu, le démon. Il dit, pourquoi ? Il dit, non, Shlomo, il a dit, parce qu'il veut dire que, genre, si on a mal au ventre, il faut manger un peu moins. Bref, Shlomo Amelar, il le fait rentrer. Quand Ashmeda, il voit Shlomo, il prend un bâton, il le mesure de 2 mètres, il le jette. Il dit, tu vois ce bâton-là, c'est 2 mètres. Un homme, on va le rentrer 2 mètres sur 2 mètres. Okay, sa place, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Toi, bientôt, il voulait lui faire une allusion, toi, bientôt, tu vas mourir, toi, Shlomo. Et tu as été le roi de tout le monde. Même de moi, ça ne suffisait pas. Tant que tu ne m'avais pas eu, tu n'étais pas content. Parce que Ashmeda, il pensait qu'il voulait... Shlomo, il l'a appelé pour le tuer. Shlomo, il dit, t'inquiète pas, je ne veux pas te tuer. Je t'ai juste amené... Ashmeda, c'est the démon. Hein. Il dit, je t'ai juste amené, tu sais quoi, pourquoi ? Je t'ai amené pour que tu me dises où est le chamir. On a besoin du chamir pour casser pour faire le vitaminage. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, le chamir, je ne l'ai pas, que tu me veux, non. Tu sais qui a le chamir ? C'est le roi des océans. Et le roi des océans, il le prête que à la poule. Ça s'appelle Tarnégol à barre. Je ne sais pas si ça s'appelle. Hein ? C'est la poule sauvage. Je ne sais pas c'est quoi. C'est une grosse, grosse poule. Elle lui prête que à lui parce que son serment, quand il dit je l'emprunte, genre je l'emprunte, tu peux être sûr qu'il va lui ramener. C'est un vrai, quoi. C'est pas le type, il te fait un serment et après, le lendemain, il ne respecte pas. C'est le seul que vraiment, il respecte son serment. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait la poule avec ce chamir ? Eh ben, elle va dans des montagnes désertes, elle va sur des rochers immenses, elle fait tomber le chamir. Le chamir, il ouvre tous les gros rochers. Et là-bas, la poule, après, elle met des graines dans ces rochers, entre les rochers, et ça fait pousser plein de forêts, et grâce à ça, elle se nourrit. OK ? Et après, elle reprend le chamir, elle le ramène à destination. OK ? Donc, Ashmeda, il a dit, si tu veux le chamir, il faut aller chez le... Il faut essayer de trouver cette poule-là. Il cherche une poule sauvage, qui avait un nid. Écoutez l'intelligence. Shlomo Ameler, il donne à ses conseillers, il leur donne une plaque de verre. Il dit, dès que vous allez voir le nid de ce coq-là, cette poule, vous mettez sur le... Dès qu'il part de son nid pour aller chercher à manger, vous mettez sur le nid, vous mettez cette plaque de verre. Alors vous savez que les oiseaux, ils pigent rien, ils ne voient pas le verre. Vous avez déjà vu des oiseaux qui foncent dans les fenêtres, les pauvres ? Ils se prennent des... Une fois, j'avais des... Tu sais, toujours quand tu es jeune marié, tu as des enfants, tu connais ça ? Tu achètes le petit aquarium, là, le poisson, après, il sent pas bon, tu en as pas mal, tu le bases. Après, bon, tu leur fais un kiff, tu achètes les petits oiseaux. Je sais que les oiseaux, ils t'envoient de partout des plumes et des graines, ils te salissent toute la maison, tu les bases. Et après, tu achètes la dernière chose que tu achètes, dernière expérience, c'est quoi ? Tu achètes le petit rat, là, comment ça s'appelle, là ? Le petit hamster, là. Et l'autre fois, j'avais acheté un petit hamster et j'avais acheté un mâle et une femelle. Je te dis pas, après un mois, ils m'ont fait une trentaine de gosses. Bémette, non, je rigole pas. Et attends, et le hamster, il est pas sympa. Il mange tous ses enfants, vous savez ça ? Il en a mangé une tonne. C'était horrible, quoi. Il a mangé tous ses enfants. Il en a laissé quelques-uns, deux ou trois. Et après, je l'ai vendu à un arabe. Écoute, alors... écoute, non, vraiment. Il a mordu le doigt de mon fils, l'autre fois. Donc, pour te dire que... Bekitsu, non, c'est vrai. Donc, Bekitsu, alors, tout ça pour dire qu'une fois Shabbat, en plein Shabbat, imaginez-vous les oiseaux, la cage, je l'avais mis en haute, sur le haut d'une armoire, elle est tombée, la cage, imaginez-vous, elle s'est ouverte, tous les oiseaux, voum, voum, dans la maison. En plus, quand tu as 800 mètres, tu vois, ça fait foum, foum. Et les enfants, ils hurlaient, tu vois pas, la femme, bon, ça, encore ma femme, ça va, mais les enfants, ils hurlaient, on a peur, on a peur, on a peur, et c'est Shabbat maintenant, c'est un problème. Ça s'appelle Tseda, pas Tseda. Tu commences à ouvrir le Mishnah Berurah. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Tous les sugyot, makot, betsa, tu vois? Tu ouvres une betsa, tu commences à partir. Et les oiseaux qui passent comme ça, et ta femme te dit, qu'est-ce que tu fais, betsa, maintenant? Il faut trouver une solution. Bref, en tout cas, les oiseaux, ils voient rien. Ils voient rien. Ils voient que du feu. Ils voient pas qu'il y a des vitres. Vous avez remarqué ça? Donc maintenant, la poule, elle arrive. Elle essaie de donner à ses oisillons. Elle essaie de donner les... à manger, et tu vois pas qu'elle arrive pas. Elle voit que c'est une plaque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vite dans l'océan, et elle va chercher le chamir. Elle va l'emprunter. Elle met le chamir, son intention, c'est mettre le chamir sur la plaque de verre, et ça va faire un trou. Maintenant, elle veut donner à manger à ses enfants, elle peut plus, il y a une plaque de verre dessus. Comment elle va la casser maintenant? Elle a pas de marteau. Donc elle amène le chamir. Elle emprunte le chamir, et Benyahu ben Yehuda qui est à côté, dès que la poule elle arrive vers la plaque de verre pour le mettre, il a crié comme ça, il a effrayé comme ça, il lui a fait peur. Elle a fait tomber le chamir, ils l'ont attrapé le chamir, et grâce à ça, ils ont réussi à récupérer le chamir. Sans pas l'intelligence, tout ça. Quand écoute ça maintenant, la poule, dès qu'elle a vu ça, qu'on lui a piqué son. Elle peut pas maintenant. Son serment, elle a fait un serment qu'elle ne prête à personne. Dès qu'elle a vu qu'on lui a volé, elle s'est suicidée.
Non.
Parce qu'elle est tellement émette, elle est tellement émette que si elle ne peut pas respecter son serment, elle s'est suicidée. Donc maintenant, ils amènent à Shlomo HaMelech, ils commencent à faire, ils prennent le chamier, ils commencent à couper. Et vous savez que chaque pierre, elle était, il y avait ce qu'on appelle c'était un Lechem Shamaim. Vous savez que le Rav Lopian, alors Rabotai, Rav Lopian, il dit, il ramenait au nom du Gaon de Vilna. Il dit que, imaginez, si tu construisais une synagogue, et que tu n'amènes que des rabbins avec des grandes barbes, qui mettent chacun une pierre avec une intention. Imagine, je te dis, Ruzi, vas-y, je fais l'inauguration de ma maison, je veux que chacun mette une pierre. Ok? Toi, tu mets la pierre, je mets le ciment. Toi, tu mets une pierre, je mets un ciment. Comme je te demandais de mettre une pierre, ça, tu peux avoir l'intention. Il faut que tu aies l'intention que cet endroit-là, ça va être un endroit de prière, d'étude, min kavana, min intention. Il dit le Galvina, si ça, tu construis une synagogue comme ça, ça ne serait pas possible, après qu'elle ait fini la synagogue, la choule, de prier sans intention. Tu es obligé, chaque prière, elle soit avec intention. Parce qu'elle était tellement, cette choule-là, était tellement faite avec une kavana, ouais, que ce n'est pas possible que la choule, que la tefila, elle soit sans kavana. C'est comme on raconte dans l'Agma dans Bavetsia. On raconte que Rav Chia, il a vu que la Torah dans les nouns là-bas. L'Agma raconte que Rabbi Chia, il a vu que la Torah elle commence à s'oublier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit regarde, il a pris une charrue, il a commencé avec un taureau, il a commencé à creuser. Il a creusé, il a fait un trou. Après qu'il a fait un trou, il a pris une graine de lin, il a planté. Après, quand ça poussait, il a pris cette graine de lin, ce lin-là, il a fait sécher. Après qu'il a fait sécher, il a fait des cordes. Après qu'il a fait des cordes, il a fait un piège. Après qu'il a fait un piège, il a chopé un cerf. Après, il a fait la shrita. Après qu'il a fait la shrita, la viande, il a donné à des orphelins. Et la peau, il a écrit 5 livres. Chaque livre, il a donné à 5 élèves. Et comme ça, il leur apprenait la Torah. Alors tous les commentaires, ils s'ennuient à Fria. Il n'a rien à faire, il n'a pas des enfants, il n'a pas une femme, il n'a pas des enfants pour faire ça. Va au magasin, j'achète tout prêt. Ils te vendent un clave bac, ils te vendent le clave déjà tout prêt. Tu crois que les sofrim, ils vont faire ça? Ils achètent au magasin, tout les, tu vois, tu vas au magasin de clave, tu choisis le clave, c'est au toucher, c'est... Ouais, plus tu écris, plus tu comprends un peu c'est quoi. Qu'est-ce que ça s'appelle un bon clave qui va écrire bien? Tu sais, il y a des claves comme ça, il y a des parchemins qui sont durs à écrire, ça glisse pas comme ça, c'est pas... Ouais, il y a des qualités dans ce clave, ok? pour écrire un Sefer Torah. Alors souvent, ceux qui connaissent un peu, business Sefer Torah, quand tu vas acheter un Sefer Torah, toujours, qu'est-ce que tu vas regarder toi? Tu vas regarder la première parasha, tu vas ouvrir Bereshit, comme un idiot. Parce que tu vas ouvrir Bereshit, parce que tu dis, c'est le début, tu veux voir l'écriture. Mais toujours Bereshit, l'écriture elle est au top, parce que c'est le début. Il sait que le type qui va acheter un Sefer Torah, il va regarder le début, il va pas regarder au milieu. Mais en fait, au milieu, ce qui se passe, le sofer, ceux qui n'est pas Yiret Shamaïm, le claf, il n'a rien à faire de quel claf, la qualité. Peut-être qu'à la limite, ce n'est pas son écriture, il n'avait pas le temps, il a dit je t'écris un an, il a vu, il appelle Rudy, dis-moi, tu t'ennuies là, tu n'as pas de commande, tu peux m'écrire 5 parachutes, ok, il n'y a pas de problème. Il voit que dalle le type, qu'est-ce qu'il connaît? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut s'y connaître un peu dans le business du Sefer Torah. Ceux qui ne sont pas Yiret Shamaïm, ils peuvent te rouler. Bon, je ne dis pas que c'est la sourde, quoi, ouais, mais ce n'est pas du Emet, ce n'est pas du Yasha. Il faut être droit dans la vie. Bref, ce que j'étais en train de dire maintenant, donc Rav Chia, pourquoi il a fait ça? Pourquoi Rav Chia, il avait besoin de se prendre la tête? Parce qu'il a dit, comment je vais inculquer à ces enfants la Torah? Comment je vais leur inculquer en mettant, même dans la préparation, je vais leur mettre plein de Torah. Ouais. On raconte que sur Rav Shteinman, l'histoire de Rav Shteinman, je ne sais pas si vous la racontez Shabbat, je voulais lui raconter un... on raconte sur un élève, il disait, vous savez, la Torah, tout le monde me dit que dans la Torah, c'est un kiff. Écoute, dans la Torah, tout le monde me dit que la Torah, c'est un kiff. Moi, je kiffe pas. Moi, je kiffe 10 fois plus voir des films. Okay, je kiffe 10 fois plus faire du business. La Torah, c'est pas mon truc. Okay, on me dit que la Torah, c'est un kiff. Moi, j'ai pas de kiff. Alors, le père, il ne savait plus quoi faire. Il dit, bon, tu sais, mon fils... Et le fils, il commençait à se rebeller. Tu connais l'histoire. Et voilà que... son père lui dit, tu serais d'accord de venir chez Rav Shteinman? Tu serais d'accord de venir chez Rav Shteinman pour raconter ton histoire? Il dit oui, mais... Le fils, il dit, mais comme je parle à Rav Shteinman. Ça s'appelle le plus grand rabbin du monde. Moi, rabbin ou pas rabbin, moi, ils sont tous les mêmes pour moi. Bon, ok. Il lui dit, ok, pas de problème. Il va chez Rav Shteinman, il dit, voilà, mon problème, j'ai pas de kiff dans la Gemara. La Gemara, on dit que c'est un kiff, moi, j'ai pas de kiff. Rachetman lui dit tout simplement avec sa gentillesse, il lui dit, regarde, est-ce que tu es d'accord que le miel, c'est quelque chose de doux? Il lui dit, bien sûr. Mais alors, tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Il y en a qui n'aiment pas le miel, ok? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas doux. Il y en a qui n'aiment pas ce bonbon-là, parce que le miel, il a un goût spécial. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Ouais, logiquement, les gens, ils aiment. Mais il y a des gens, j'ai vu des gens qui n'aimaient pas le miel. Mais celui qui dit que le miel, il n'est pas doux, Rachetman lui dit, c'est quoi ce type-là? Il dit, un monsieur qui dit que le miel, il n'est pas doux, ouais, c'est un signe qu'il doit avoir des herpès ou des boutons dans sa langue. Alors Rav Shteinman, il dit, tu te rends ce que tu dis? C'est la même chose. La Torah, c'est la même chose. La Torah, c'est doux comme le miel. Celui qui ne kiffe pas la Torah, c'est-à-dire qu'il a des boutons sur sa langue, il a des avérotes. C'est pas grave, mais il faut les soigner. Si tu as des... C'est comme, par exemple, quand tu es malade, je peux t'amener des chocolats de miel, je peux t'amener un steak pour ceux qui aiment les steaks, je peux t'amener une pizza pour ceux qui aiment... Je peux t'amener un gratin, un dauphinois, ou ouais, des lasagnes au saumon, ok? Je peux t'amener ça, ok? Mais tu es malade, tu as 39 de fièvre, tu dis, écoute, je peux le laisser à côté, moi je touche à rien. Tu n'as pas les nerfs de manger, ok? Tu n'es pas dans l'ambiance. Alors Shaman lui dit, regarde, si tu veux savoir pourquoi tu n'as pas de kiff dans la Torah, c'est parce que tu es pas chou, tout simplement. T'as des boutons. C'est intéressant, ou pas? Alors, on raconte sur Ravolbeu une très belle histoire. On en colle du temps. Ravolbeu, il raconte une très belle histoire. Une fois, un des enfants de Ravolbeu, il est parti un peu en cacahuète. Ok, le pauvre. Bon, et on sait qu'il y a des grands rabbinim, que leurs enfants, ils n'ont pas suivi leur chemin. C'est trop dur d'assumer. Tu sais, quand tu as un père qui est trop grand, pas tous les enfants, ils ont les nerfs de suivre le chemin de leur père. Par exemple, si l'enfant il voit qu'il n'est pas assez rfif, il dit, moi j'arrive. Déjà, il se décourage. Il dit, moi, mon père, comme il regarde trop haut, son père, il est trop haut, il dit, jamais je pourrai arriver à mon père. Donc, si je ne peux pas arriver à mon père, donc laisse tomber. Ça, c'est... Rav Shach, il a eu un enfant comme ça. Et Rav Olbe aussi, il avait un enfant qui a lâché le chemin de la Torah. Il ne gardait plus Shabbat. Et un jour, Rav Olbe, il a fiancé sa fille à un khatan très important de Hebron et tout, Polovitch. Et voilà qu'il a fait le Shabbat khatan. Le jour du Shabbat Ratan, c'était un Shabbat, ouais. Donc il a invité des Bachourim. Il y avait la Kala, donc la fille de Rav Olbeu, et il y avait le Khatan. Et il y avait des Dvar Torah, des chants et tout ça. Et d'un coup, en plein milieu, qui chantait et tout ça, qu'il y avait un Dvar Torah, on entend bzzz, la sonnette. Ouais, ouais. C'est, les gens, ils étaient rouges. Toute la famille Volbeux, ils ont compris c'est qui sonne. Okay, c'est le monsieur enfant. Okay. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a besoin de sonner. Donc comment on pourrait réagir? Il fait exprès. On ouvre la porte. Qui c'est? C'est le fils de Ravolbeux. D'une main, un paquet de cigarettes. L'autre main, les clés de la voiture. Ok. Ah, salut les mecs. Tu sais, il rentre en jean, tu vois, tout frais comme ça, jean diesel comme ça. Il rentre. Et voilà que la chouma, quoi. Comment maintenant on pourrait réagir? Première réaction, c'est il faut le défoncer, ce garçon. Parce qu'il fait exprès. Il fait exprès de chauffer. Okay, tu sais que c'est Shabbat Khatan, tu sais qu'il y a des bachourim, tu sais qu'il y a du monde. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu veux nous faire l'archouma? T'es pas sympa. T'es pas sympa de faire ça. Et vraiment, il était pas sympa de ça. Comment Ravolbeux, il a réagi? Écoutez ce qu'il a fait, Ravolbeux. Regardez la force de Ravolbeux. Ravolbeux, il se lève. Il se lève, il va chez son fils, il l'enlace. Il dit, comment ça va, mon fils? Ça nous fait plaisir que tu es là. Sans toi, il manquait que toi pour que la simcha soit entière. Viens t'asseoir, viens, on va te servir. De suite, il s'est occupé pour qu'on le serve. Et ils ont continué à chanter, etc. Ni vu, ni connu. Et voilà que, quand après qu'ils ont fini la souda, le garçon, il retourne pour prendre sa voiture, pour aller, je ne sais pas où, à la mer. Ouais. Et d'un coup, il va devant sa voiture, il n'arrive pas. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Regarde ce que mon père, il m'a fait maintenant. Au lieu de s'énerver, il a réagi complètement à l'envers. Il a commencé à se mettre en question. Et quand il s'est mis en question, il a décidé depuis ce jour-là de garder Shabbat et de revenir dans le bon chemin. Et il est devenu un grand Rosh Yeshiva. Regarde des fois la parole d'un... Comment tu le fais à l'envers? Ouais. Comment ça peut... S'il avait fait à l'envers, c'est ce qu'il attendait, le fils. Le fils, il attend de chauffer, ok? Qu'il y ait une embrouille, il attend que ça. Les enfants à la puberté, 16-17 ans, c'est le plus rebelle, ok? Ils arrivent, ils adorent faire l'embrouille. Ils adorent chauffer le père il s'énerve, la mère elle se met du côté du fils et l'embrouille commence. Le Shabbat, voici le Shabbat qu'on attendait depuis longtemps, l'embrouille du papa. Et le père, il attendait enfin Shabbat pour retrouver sa femme, ouais. Pour pas... Et quoi? Et voilà que embrouille sur embrouille, cri sur cri, et c'est les verres qui passent de tous les côtés, les vases qui sont embrouillés, baston général de la maison, et voilà que c'est le Shabbat. Comment il a fini le Shabbat? Vous connaissez ces histoires-là? Ouais. C'est souvent ça arrive, ça. Donc juste pour... On revient maintenant. On revient. Donc Shlomo HaMelech, il a continué à construire. Chaque pierre, elle se mettait... Chaque pierre qui était taillée, dès qu'il commençait à la mettre, il y avait un S qu'elle se mettait auto... Elle se plaçait comme ça. On n'a pas besoin de mettre... C'est un coup de marteau comme ça, tac, tac. Tu sais, les employés comme ça. Elle se rentrait automatiquement. Et voilà que maintenant, le problème, c'est qu'il y a Hachmedaï qui est là. Shlomo HaMelech, tant qu'il avait le chamir, il ne voulait pas lâcher Hachmedaï. Il avait peur qu'il lui pique. Donc Shlomo HaMelech, un jour, il s'ennuyait comme ça. Et il voit Hachmedaï. Il lui dit, dis-moi, comment c'est possible qu'Hachem, il se vante des anges, il se vante des démons, et il ne se vante pas des hommes? Genre, les démons, qu'est-ce que vous avez de plus important que les hommes? Alors le démon, il dit, écoute, tu sais, enlève-moi les chaînes, donne-moi ta bague et je vais t'expliquer, je vais te montrer qu'est-ce qu'il a un démon de plus que l'homme. Alors moi, tu vas me dire, c'est pas la sagesse, ça manque un peu de sagesse, non, par rapport à Shlomo. Comment Shlomo HaMelech, il lui donne la clé? Ouais, c'est comme si, tu as un revolver et tu dois garder un voleur, ok? Le voleur, il te dit, tu me prends le revolver? 2 secondes juste, 2 secondes. Tu vas lui prêter? Tu es bête ou quoi? Tu lui prêtes, il va te faire la fête. Et Shlomo HaMelech, il lui donne la chaîne, il lui donne la bague, et Hachmedaï, d'un coup, lui sort une aile qui monte jusqu'au ciel, une aile qui monte jusqu'en bas. Donc il était... il était en plein air, il est monté en plein air, une aile vers le haut, une aile vers le bas. Il a avalé la bague, selon, il y en a qui disent qu'il a avalé Shlomo, bon, c'est ma requête. Il lui a mis un coup de d'aile, ok? Il te l'a envoyé à 160 km.
Il a propulsé.
Ouais, il a propulsé, je ne sais pas où il est arrivé, parce que Shlomo HaMelech était connu de partout.
160
km? Ouais, 160 km. À Bamaot par ça. Il est sorti en dehors de Jérusalem. Maintenant, en dehors de Jérusalem, tout le monde le connaissait. Et la preuve, c'est que quand il arrive maintenant dans l'endroit là-bas, le pauvre Shlomo HaMelech, il arrive dans les broussailles comme ça, il arrive avec son...
Il est mort.
Non, il n'est pas mort, il arrive en...
60 km.
Non, il arrivait, il a fait un atterrissage...
Et dis-moi, il discute avec les démons, il les enchaîne.
Ouais, Hachem, il l'a sauvé, quoi.
Non, il avait un parachute.
Qu'est-ce qu'il avait prévu, Shlomo HaMelech, avec son intelligence. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Hachemidaï? Comme il arrive à se dévoiler en démon, en homme, donc il s'est dévoilé, il avait la même tête que Shlomo. Il a commencé à s'asseoir sur le trône, il a mis maintenant des chaussettes, jamais il dévoilait ses chaussettes, et il a commencé à aller sur les 1000 femmes de David Améler. Il a fait un carnage, ok? Et les femmes, ils ne comprenaient pas, tu vois, ils disaient, Maka, qu'est-ce qu'il a, Shlomo? Et il avait faim. En plus, il avait faim. Il voulait toujours manger. Il mangeait des repas et tout ça. Ils ont dit, c'est drôle. Il avait des comportements pas bien. Les gens, ils disaient, ou bien que le démon, il a enlevé la chokhma à ce Shlomo, mais il se passe quelque chose. Je sais pas, Shlomo, il a tourné, quoi. Il a changé. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas capté que c'est en fait le démon. OK? Il a éloigné tous les gardes. Ce démon, il a dit à Benio, Benio Yada, tu ne rentres plus dans mon palais. Tu t'éloignes de mon palais. Comme ça, pour pas qu'il capte. Tous les gens qui avaient la sagesse, il les a mis de côté. Et Shlomo HaMelech, maintenant, il arrive dans une campagne. Ouais, il dit, je suis le roi Shlomo, tu sais, parce qu'il était habillé en roi, tu vois. Il dit, mais c'est qui Shlomo? Il dit, je cherche la ville de, je suis le roi de Jérusalem. C'est quoi? C'est qui? C'est où Jérusalem? Il savait même pas ce que Jérusalem. Tu sais, les païens de païens, ils connaissent pas. Donc Shlomo HaMelech, lui, il disait, voilà, tu vois, je pensais que j'étais le roi, que tout le monde me connaissait. Je vois qu'il y a des gens qui me connaissent pas dans ce monde-là. De un, et de deux, qu'est-ce que ça fait l'argent et les femmes et tout ça? Regarde, j'avais l'argent, les femmes, le kavod, tout ce que j'avais envie, la Torah, en une seconde, tout est parti. Donc Shlomo HaMelech, il s'est remis en question, il a eu un grand machber. Il va chez les gens, ils le basent, ils disent, il est fatigué, c'est le roi, tout le monde le disait, misken, tu vois. Imagine, demain, tu vas dans la rue, tu dis, je suis le roi de Tibériade. Ils vont te dire... Et ça me ferait fatiguer, tu vois. Bien, je suis le président d'Israël. Tu vas à Paris, je suis Bibi Netanyahou. Même si je le ressens, mais il va fatiguer. Il ne marcherait pas comme ça, Bibi Netanyahou, en plein dans le métro, ouais. Donc, ce démon-là, il a commencé à faire des carnages là-bas. Il maltraitait le Sanhédrin. Et Shlomo HaMelech, lui, il marchait. À un moment, tous ses habits étaient déchirés. Il n'avait plus d'habits. Il marchait en caleçon, tu vois. Et donc il y a des gens qui lui ont prêté des habits, qui ont donné un peu à manger. Il va dans une grande maison d'un riche. Il dit, peut-être que lui me connaît, tu vois. Sa femme, elle dit, là, c'est un mytho, tout ça. Après, il va chez un pauvre. Et il dit, je suis le roi Shlomo. Et le pauvre, il a commencé à le croire. Il dit, t'inquiète pas, tu vas revenir et tout ça. Shlomo HaMelech, il a dit, sachez qu'il y en a un qui me remet en état. Je retourne à Jérusalem et à la fin... Il touchera le type. Et personne ne voulait faire confiance, ça a fatigué. Bon, il y a eu plein de péripéties. Dans le Midrash, il est écrit qu'il est passé dans chez le roi Amon et il a pris la fille de Amon. Ok ? Il y en a qui disent qu'il s'est marié avec une fille de Amon là-bas. Et cette fille de Amon, c'est grâce à cause que le Machiach qui va sortir de Amon, parce que quelque part, c'est la fille de Amon qui va la remettre qui va venir avec elle à Jérusalem. À un moment, en bref, il arrive à Jérusalem, enfin il arrive à Jérusalem, il commence à dire au Sanhédrin, je suis le roi Shlomo. T'es malade, le roi Shlomo, il est là-bas, que tu racontes, tu sais, c'est le même visage, tu vois, double face, ok. Alors, il commence toujours à répéter, sachez, je suis le roi Shlomo. Le Sanhédrin, qui sont un peu intelligents, ils disent, c'est pas normal, si le type il est un peu déchiré de la tête, c'est un fatigué, il répéterait pas les mêmes mots. Il dirait toujours un peu des autres choses. Là, toujours, il dit, je suis le roi Shlomo. Donc, c'est pas normal. Il a quelque chose aussi. Alors, ils ont dit, viens, on demande à Benio Benio Yada. Benio Benio Yada, il dit, je sais pas. Depuis 7 ans, j'ai été un peu à l'extrême. Je suis pas rentré dans le palais. Il veut pas me laisser rentrer Shlomo. Je sais pas ce que je lui ai fait. Il veut pas me rentrer.
Ça a duré 7 ans, cette histoire.
Ouais. Je crois que c'est 7 ans. Nirali. Bref, quand il revient... Le Sanhédrin, il questionne. Ils ont dit, la seule personne qui peut questionner, c'est qui? Qui pourra nous dire la vérité, c'est qui? Non. À qui on demande quand on a un problème? À sa mère. à Bathsheba. Ils sont allés chez Bathsheba et ils voient que Bathsheba, elle pleure, elle est en pleurs. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Bathsheba? Pourquoi tu es en pleurs? Il dit, je sais pas, Shlomo, mon fils Shlomo, je sais pas, il a pété un câble. Je sens plus de Shlomo Améler, je sais pas ce qu'il a. C'est pas Shlomo Améler. Il demande toujours à manger, il maltraite le Sanhedrin, je sais pas ce qu'il fabrique. Même, il y a écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin, qu'il a demandé à Bathsheba s'il voulait pas avoir une relation avec elle. Et c'était là l'histoire, là. Il s'est embrouillé tout ça, tu vois. Comme monsieur Dabal, ok? Avec le GPS. Alors, le. Quoi?
La mère de Shlomo,
ça va? Sa mère? Bathsheba, c'est sa mère, ouais.
La mère de Shlomo?
Ben oui. C'est celle-là que Shlomo, il avait vue sur le toit, comme ça, il a craqué d'elle. David. Que David Améler, il a vu sur le toit, il a craqué d'elle. Après, il a fait tuer son mari, il a pris. Bon, j'avais tout expliqué, c'est quoi l'histoire? En deux mots, juste pour finir. Donc, Shlomo Améler, en fin de compte, il dit à Benio Yada, va voir ses pieds. Regardez, allez voir ses pieds, vous allez voir que j'ai raison. Il se pousse, ils ne veulent pas rentrer les gardes, il était très fort, il rentre, et il va voir, et il voit qu'il n'avait pas des pieds normaux. Et là, il a capté, il a dit, c'est vrai, c'est pas Shlomo. Shlomo Améler, il rentre avec tout le Sanhedrin dans le palais. Quand Shmeda, il a vu, il a eu peur, et il a disparu. Et Shlomo Améler, enfin, il a repris son royaume. Ils ont tous galéré, quoi. Shlomo Améler, avec toute sa force, toute son intelligence, Hachem, il voulait faire du Moussa. Il voulait dire, voilà, sache que dans la vie, te montre. Et grâce à ça, Shlomo Améler, il a fait le livre de Kohelet, Evel Avalim, ça commence. Evel Avalim Amar Shlomo. C'est quoi Evel Avalim, comment on traduit? Toutes les vanités, très bien. Vous connaissez le Kohelet? Shira Shiri, Machel et Shlomo, tu vois. Et après, il y a Kohelet. Tous ces trucs-là, ça montre. Comment c'est Shlomo Améler qui les a fait. Il a fait plein de paraboles, il a fait Michelet, il a fait des choses super puissantes. Shlomo Améler, il savait tout, surtout. La semaine prochaine, on parlera sur tous les jugements qu'il a fait à Shlomo Améler, tous les embrouilles qu'il a réussi à résoudre.